Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le dernier épisode consacré à l'ouverture de points de vente pour la jeunesse. Pour cet ultime volet, je retrouve Elsa Gounod, libraire jeunesse, responsable donc du rayon jeunesse à la librairie 1000 pages à Vincennes. 1000 pages est aujourd'hui la plus grande librairie indépendante d'Île-de-France. Elsa intervient en parallèle dans un podcast dédié à la littérature jeunesse et a expérimenté d'autres librairies avant 1000 pages. Mais pourquoi, me direz-vous, donner la parole à une libraire dans une librairie historique, une institution, tout sauf une librairie finalement qui s'ouvre? Alors d'abord parce que l'espace BD Jeunesse 1000 pages, dans lequel Elsa travaille, a fermé. À l'été dernier, ça m'intéressait d'évoquer la question de la réouverture d'une librairie et de la comparer avec celle d'une ouverture. Est-ce qu'on se pose les mêmes questions en termes de politique d'achat, de stock? Un certain nombre de questions, finalement, vous verrez, sont convergentes et pourraient se retrouver si 1000 pages avait été une librairie qui s'ouvrait. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'était d'entendre Elsa, qui a travaillé, donc, comme je vous le disais, dans différentes structures depuis une dizaine d'années. Et j'avais envie d'avoir son regard sur l'ouverture d'une librairie jeunesse aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus. Belle écoute! Bonjour Elsa.
Bonjour Coraline.
Merci de me rejoindre aujourd'hui sur le podcast Délivrable. La librairie 1000 pages, c'est la plus grande librairie indépendante d'Île-de-France. Est-ce que tu veux bien nous la présenter? Et plus particulièrement, la librairie jeunesse dans laquelle tu travailles?
Alors, c'est effectivement la plus grande librairie indépendante en Île-de-France. C'est une librairie qui a été créée il y a plus de 40 ans à Vincennes, sachant qu'au début, c'était une librairie généraliste qui s'est agrandie et qui a occupé différents locaux dans la ville. Et depuis plus de 20 ans, elle est séparée en plusieurs espaces. Donc, il y a d'un côté la librairie générale, qui est elle-même très grande, et de l'autre, maintenant, une librairie spécialisée jeunesse et bande dessinée. Donc, nous avons sur cet espace d'à peu près 200 mètres carrés toute la partie jeunesse et la bande dessinée, qui est dans la même rue que la librairie générale, mais un petit peu plus haut. Voilà.
D'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Il y a la librairie Les Images. Je ne sais pas si tu connais la librairie ou les libraires qui tiennent cet endroit. Manon Picot, elle parle beaucoup, elle donne des cours à l'école de la librairie et elle parle de lignes éditoriales en librairie. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Et par rapport à 1000 pages, qu'est-ce que tu en dirais?
Alors moi, ça me parle beaucoup. Je connais de nom la librairie L'Île aux Images, mais je ne connais pas personnellement les libraires ni la librairie. Mais je suis a priori totalement d'accord. Je pense que c'est important de développer une ligne parce que c'est pour ça que les clients viennent aussi. Je pense qu'on n'est pas juste des vendeurs de livres. On n'est pas là uniquement pour poser des livres et les vendre. Le but, c'est de les choisir, d'assumer nos choix et de les partager. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du métier. C'est pas parce que la librairie est très importante que le choix doit être noyé. Le choix est toujours là. Alors, on va avoir des grosses sorties, des choses comme ça, mais on peut aussi mettre en avant des choses beaucoup plus pointues qui vont vraiment fonctionner. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir partager ça. Moi, j'essaye vraiment d'être assez pointue dans ce que je peux proposer, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais l'idée, c'est de le partager. C'est vraiment d'être dans une idée de médiation avec les clients, parce que cet aspect pointu, pour moi, il ne doit surtout pas être élitiste. C'est là où est la différence. Et c'est par la médiation qu'on arrive à ça et à en faire un lieu très ouvert, mais qui permette aux gens de découvrir plein de choses qu'ils n'auraient pas forcément découvert d'eux-mêmes.
Et si je ne dis pas de bêtises, il y a une ADN forte chez 1000 pages, c'est le nombre de rencontres que vous faites. Est-ce que c'est vrai, parce que ça, c'est ce que moi, je connais historiquement de la librairie généraliste, est-ce qu'en jeunesse, vous êtes aussi attentif à ça?
Alors, tout à fait. À la librairie généraliste, il y a vraiment un très important programme de rencontres, avec plusieurs rencontres par semaine, etc. À la librairie jeunesse et BD, on a beaucoup plus de dédicaces, forcément, donc plus sur de l'illustré. Après, on essaye de mettre en place de plus en plus de rencontres également, surtout depuis les travaux. En fait, on a fait des travaux l'été dernier, donc il y a un peu moins d'un an du coup, qui a permis de rendre la librairie beaucoup plus ouverte et aérée et notamment avec des meubles qu'on peut désormais bouger, ce qui tout de suite facilite les rencontres. Donc depuis, on essaye de mettre en place de plus en plus de rencontres, ce qui permet d'ouvrir les événements aussi aux romans, notamment aux romans pour ados, ce qu'avant on faisait beaucoup moins parce qu'on était beaucoup plus sur dédicaces, ateliers ou lectures, où c'était quand même plus de l'album, et également sur la partie bande dessinée avec des rencontres avec des auteurs de BD, souvent plutôt de BD pour adultes du coup.
Et du coup, c'est ça qui a motivé les travaux? Il y a d'autres choses qui ont motivé les travaux à la librairie côté jeunesse?
Alors, ça a motivé en partie les travaux. Après, c'était un besoin plus général. Là, le mobilier était vraiment vieillissant. C'était le moment de tout refaire. La librairie fonctionnait déjà très bien. C'est une librairie très installée, installée dans la ville, mais dans le département aussi. Du coup, c'était pas un problème. Par contre, c'est vrai que voilà, le mobilier était, c'était un mobilier qui avait été récupéré de l'ancienne librairie générale. Voilà, c'était un petit peu de briques et de broc tout de même, même si les clients s'en rendaient pas compte, ce qui était très bien, du coup.
Ouais, c'était voilà. Un peu caché par c'est votre ça. Accueil, par c'est les ça. Échanges que vous aviez. Ouais.
Et du coup, même d'un point de vue pratique aussi pour les libraires, pour la qualité de travail, parce que comme on a beaucoup de clients, on a aussi beaucoup de livres qui arrivent, beaucoup de réassorts, ça demande beaucoup de manutention. Si on peut avoir des meubles
à bonne hauteur,
plutôt pratiques,
pratique, voilà. C'est plus simple pour vous, c'est moins simple. Fatigant, c'est moins, voilà, c'est moins risque.
C'est mieux pour nous et pour les clients. Et après, il y a aussi clairement une question esthétique, de remettre un peu au goût du jour un mobilier qui est là, du coup, plutôt en bois clair, ce que je trouve plutôt intéressant pour mettre en valeur les différents styles d'illustration, pour laisser un peu s'effacer les meubles par rapport ouais.
Là
aux
où c'était plus
livres.
Des meubles plus foncés avant, c'est ça. Du bois c'est plus, ça. Plus visible. Mmh. Et l'idée d'ouvrir au départ un espace vraiment dédié jeunesse BD, bon, c'est quelque chose que beaucoup de librairies généralistes indépendantes pratiquent. Qu'est-ce qui, pour toi, motive ce choix-là? Et plus particulièrement, qu'est-ce qui l'a motivé pour 1000 pages au départ?
Moi, je ne travaillais pas encore à 1000 pages quand ça a été fait. Par contre, je pense que c'est effectivement une façon de s'agrandir assez courante en librairie. Ouais. La librairie générale, elle a même été à un moment dans l'espace actuel de la librairie jeunesse BD, où il y avait toute la librairie générale, du coup, y compris jeunesse et BD, dans cet espace-là. Donc, à un moment, comme cette librairie a pris beaucoup d'ampleur, ça a déménagé. Et quand on cherche à s'agrandir, au bout d'un moment, l'espace n'est pas juste immobilier, n'est pas possible. Du coup, l'idée, c'est de déporter certains rayons. Et ce qui est le plus facilement déportable, c'est la jeunesse et la bande dessinée. Alors parfois, il y a des librairies qui déportent que la jeunesse ou que la BD. Puis je pense que ça dépend vraiment des quartiers, des clientèles aussi. Là, ça semblait très cohérent. Déjà, Vincennes et ses environs, c'est un lieu très familial. Mmh. Donc on a une clientèle très, très familiale. Et du coup, leur apporter cet espace assez grand où les familles peuvent venir sans problème, avec des poussettes, avec de l'espace comme ça. Ça semblait, à mon avis, assez cohérent dans la ville. Et ça donne cette ouverture aux familles et à la jeunesse. Et alors après, on a adjoint la bande dessinée. Alors il y a ce côté où déjà la bande dessinée, il y a la partie bande dessinée jeunesse qui est intéressante d'avoir avec la jeunesse parce qu'il y a vraiment des ponts. On peut tout à fait conseiller et de la bande dessinée et des albums et des premières lectures pour les mêmes personnes. Et après, la bande dessinée adulte, il y a un côté cohérent sur le côté graphique. Mmh. Et on voit clairement des familles qui repartent avec des livres pour adultes, pour enfants, voilà. Donc,
oui, qui naviguent entre les
bien.
Deux, parce qu'elles sont quand même elles sont assez proches.
Oui, c'est le principe. Totalement. Ouais.
Et je m'interroge, moi j'imagine que ça a quand même été un gros boulot de gestion de stock en amont des travaux, toute une réflexion pour pas trop impacter l'activité. Donc tu as parlé des rencontres, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez par exemple ajusté le nombre de références? Voilà, est-ce que vous avez fait des choix différents aussi après les travaux?
Alors, tout à fait. Je pense que c'était un très bon exercice et un moment très intéressant pour moi et mais pour toute l'équipe, ces travaux. Alors, pendant la durée des travaux, c'était pendant l'été, de juin à août à peu près.
Ce qui n'est pas la période la plus dense à Paris. Donc voilà, c'était, j'imagine le choix a été fait aussi en conséquence.
C'est en général le cas. En général, on fait plutôt les travaux sur cette période quand on peut.
Quand on est à Marseille, on va peut-être éviter.
Voilà, voilà.
Non, mais voilà. Oui, non, mais je comprends. Mais pardon, je t'ai interrompu.
Non, vas-y, si. Mais je pense que c'est souvent le cas. Après, nous, on a gardé un petit espace ouvert. En fait, on a notre espace de réception et local qui fait également stock, qui est juste en face de la librairie, qui du coup s'est transformé pendant les travaux en petit accueil des clients. Donc c'est minuscule, hein, ça fait 6 mètres carrés. Donc on passe de 200 mètres carrés à 6 mètres carrés, c'est vraiment juste un accueil. Comme ça, on avait une toute petite proposition de livres et les clients pouvaient passer commande de tous les livres qu'ils voulaient. Pour le coup, il y avait aussi un peu de bande dessinée adulte qui était déportée à la librairie générale. Mais pareil, une toute petite sélection.
C'était juste pour le temps. Pour fluidifier un petit peu les choses.
Voilà, c'est ça. Donc, on a progressivement, les mois avant les travaux, réduit le stock, tout en essayant de garder un stock raisonnable quand même, parce qu'on était ouvert, la librairie était ouverte, donc il fallait pouvoir proposer un choix aux clients. Mais on a essayé de faire ça progressivement pour le réduire, ce stock, au minimum. Après, on a nettoyé le stock, on a forcément fait des retours, mais le but était quand même de réduire ça le plus possible pour arriver à ce stock minime de l'été, qui était le stock des
présents dans les cimetières. Ça faisait combien de références à peu près, par curiosité, si tu te souviens ?
Alors, sur l'été, c'était ridicule, mais je ne peux même pas dire. Je veux pas dire de bêtises, d'accord, parce que c'était vraiment... c'est tellement minuscule, c'était un pan de mur, quoi.
Ouais, et l'idée, c'était de travailler à la commande, en fait.
C'est ça, c'est ça. C'était de permettre aux clients de pouvoir passer des commandes.
Que surtout pas, ils se disent... parce que je pense à des librairies qui ont été en travaux. Je pense notamment à la librairie de Paris, où on pouvait se dire, mince, c'est fermé. Et je pense que c'était peut-être aussi ça que vous vouliez éviter, qu'on se dise que quelqu'un qui a l'habitude de venir chez vous puisse continuer à peu près ses habitudes. Pas tout à fait les mêmes, mais...
C'est ça, et puis mine de rien, on est dans une ville où il n'y a que nous en librairie. Ouais. Alors, il y a des librairies à Montreuil, il y a des librairies à Fontenay, qui, en vrai... physiquement, sont pas loin, hein, c'est faisable à pied, il y a aucun problème, mais je pense que il y a quand même un truc un peu psychologique.
Quelqu'un qui vit à Vincennes va aller vous voir, a priori, c'est sa librairie de proximité, donc il y a un réflexe, surtout avec cette identification pour les adultes, pour les enfants, des espaces vraiment, vraiment adaptés.
Et du coup, sur tout l'été, on a fait un travail sur le fond, pour repasser des commandes d'implantation qui sont arrivées du coup fin août. Et donc, avec mes collègues, on a repris tous les catalogues progressivement. On a essayé de tout reprendre pour pouvoir avoir un assortiment qui nous semblait intéressant. Donc, comme on est une très grosse librairie...
Tu l'as donné le nombre de références ?
Non, en jeunesse, on est autour de 14 000 références sur la jeunesse. Après, il y a en plus la BD.
Ce qui est déjà, en fait, est, pour beaucoup de librairies généralistes, est déjà, enfin, je sais pas, c'est le nombre de références que m'avait donné le Pied à Terre, par exemple.
Voilà.
Donc, ça donne un ordre de grandeur, déjà de la taille aussi, donc, pour les gens qui connaissent.
Après, ça dépend des moments. Hein, ça, on peut dire entre 13 000 et 14 000,
Ça donne c'est approximatif. Une idée de la taille, quand même. C'est important.
Voilà. Donc, l'idée est aussi d'avoir une offre très large, mais tout en gardant cette ligne dont on parlait avant. Donc, l'important pour moi, dans une librairie aussi grande, c'est d'avoir du fond. On a de la place. Donc, le but n'est pas de se laisser noyer par les nouveautés. Donc, on a cette possibilité-là que des librairies plus petites, parfois, ont plus de mal à faire. Donc, il fallait vraiment travailler sur le fond. Et du coup, j'ai demandé à mes collègues de vraiment faire cet effort-là. Sur l'été, on a repris tous les catalogues. Du coup, ça a permis... Donc, il y avait des choses totalement évidentes qui fonctionnaient déjà d'avant et tout. Mais il y a des choses qu'on a pu repêcher, entre guillemets, ou dont on s'est rappelé juste en les voyant dans des catalogues, ou voilà, des choses qu'on voulait tester aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant en tant que travail sur le fond qu'on veut avoir. Se dire qu'on arrive dans une très grosse librairie et que là, on repart presque de zéro sur le fond. Parce que de toute façon, ce qu'on avait laissé dans le petit local sur l'été, c'était genre des indispensables. Donc voilà, ça, c'était pas des livres
c'était
qui posaient questions.
C'était pas un sujet.
Non, c'était pas un sujet.
Ouais.
Donc voilà, c'était une partie, pour le coup, que j'ai trouvé assez passionnante à faire.
Et ça, tu penses, du coup, ça, donc si, ben, je le redis avec mes mots, ça a changé un peu votre politique d'achat. En tout cas, ça l'a questionné.
Ça l'a questionné. Parce que il y a certaines choses qu'on s'est dit, peut-être qu'on n'allait pas reprendre. C'était aussi le moment de mettre le nez un peu de façon plus pointilleuse dans certains chiffres, sur certains rayons. Il y a aussi ce côté, vu qu'on fait les travaux, est-ce qu'il y a des rayons qui vont être déplacés? Est-ce que certains vont prendre un peu plus d'ampleur par rapport à d'autres? Comment, alors?
Et là, justement, ouais. Sans revenir sur toute la jeunesse, mais...
Alors, dans les faits, il y a eu un peu plus de changements sur les mises en place de rayons sur la partie bande dessinée. Nous, sur la partie jeunesse, on a gardé à peu près le même agencement qui est progressif en âge, en gros. Hein. Ouais. On part des albums et au fond du magasin, on arrive au roman pour ados.
Ouais, on progresse en âge.
C'est totalement ça. Après, il y a quand même là-dedans des rayons ou des sous-rayons plutôt qui ont pris ou perdu en ampleur. Enfin, je pense typiquement, on avait un coin première lecture qui était à mon goût trop important, qui est toujours, c'est un point très important. Par contre, il avait beaucoup de stocks dormants.
Du stock ancien, un an, deux ans.
Des choses où on se rend compte que y a des séries qui ont peut-être marché à un moment, qui maintenant marchent plus trop, on est passé à autre chose. Peut-être que c'est bien de réduire un petit peu, tout en gardant une offre importante, mais ça ne perturbe pas du tout les clients de réduire un petit peu et du coup de permettre à d'autres rayons de prendre un peu plus d'ampleur. Là, ce qui a pu prendre de l'ampleur, alors c'est la partie album, qui fonctionne très très bien, qui fonctionnait déjà bien, hein, mais qui fonctionne vraiment très bien. Et peut-être les documentaires également, qui ont pris pas mal de place également. Voilà. Et le roman 8-12 également aussi, enfin le roman, roman jeunesse, on va dire. Ça dépend vraiment des librairies.
Ouais, parce que les âges, c'est toujours un vaste sujet.
De toute façon, ce n'est pas notifié, on n'écrit pas des âges sur une signalétique ou quoi. Mais
bon, c'est pour vous repérer. Voilà. Et puis c'est ce que tu disais aussi, ayant plus de place, ayant un espace plus adapté pour les rencontres avec des romans, des signatures, etc., ça vous a forcément aussi amené à réfléchir à...
C'est ça. Et on a toujours eu une belle offre de romans ados sur différentes thématiques. Donc ça reste des points importants de la librairie. Le roman ado, ça peut être un point assez compliqué selon les librairies. Avant, moi, je travaillais du coup à l'Humeur Vagabonde, une petite librairie spécialisée jeunesse. Le roman ado, c'était pas la grande force de la librairie, mais ce qui est fréquent dans une petite structure, parce que c'est petit et du coup, on vend quand même du roman ado, mais plus sur des conseils pour des cadeaux. Sinon, ouais. Les ados, ils viennent pas. C'est peut-être trop petit, trop personnel. Ils savent qu'on connaît leurs parents. Il y a un truc qui peut faire plus enfantin déjà dans l'image. Et voilà.
C'est encore une fois lié à l'espace, hein. C'est ça, c'est lié à l'espace. L'Humeur Vagabonde, à l'espace jeunesse, je vais dire une bêtise sur la surface, mais.
C'est une quarantaine de mètres carrés entre.
J'aurais dit 50 et 50. Ouais, voilà.
C'est approximatif, mais entre 40 et 50.
Ouais, donc forcément, il faut faire des choix.
Il faut faire des choix, mais même question, si on regarde purement les chiffres, même sans parler de volonté ou quoi, oui, c'est quand même plutôt l'album qui porte. Là, chez nous, l'album porte vraiment. Par contre, le roman marche beaucoup mieux que dans des librairies spé jeunesse plus petites.
Oui, forcément.
Voilà. Donc, c'est quand même des rayons importants à qui il faut donner une vraie place et une vraie visibilité.
Oui, c'est logique.
Puis après, il y a des questions de sous-rayons aussi. Typiquement, on a alloué moins de place aux livres CD parce que c'est clairement de moins en moins demandé. Donc, du coup, autant garder une belle offre, mais un peu plus réduite qu'avant. Et du coup, agrandir un peu le reste des albums. Mais ça, c'est des arbitrages qu'on a fait. Et oui, c'est du coup un travail hyper intéressant.
Bah ouais, j'imagine. Et je m'interroge aussi... moi, je trouve le maillage parisien intéressant, surprenant aussi à certains égards. Et je parle du maillage de librairie, bien sûr. Il y a donc un certain nombre de librairies jeunesse. Il y en a beaucoup qui sont adossées à une librairie généraliste. Par exemple, il y a une seule librairie sorcière. Et puis, bon, voilà, il y en a qui ouvrent, il y en a une vingtaine, 20-30 qui sont des librairies jeunesse. Qu'est-ce que ce ratio t'inspire? Que ce soit le nombre de librairies jeunesse par rapport au nombre de librairies généralistes, les ouvertures, et puis le fait qu'il y ait une librairie sorcière à Paris et qu'il n'y en ait pas plus aujourd'hui.
Alors, pour la librairie sorcière, je pense Déjà que c'est peut-être lié au fait, comme tu disais, qu'il y a beaucoup de librairies jeunesse qui ouvrent parce que c'est des extensions de librairies généralistes. C'est un cas très fréquent à Paris, en province aussi, mais quand même à Paris, on le voit énormément. Et c'est lié, à mon avis, au bâtiment parisien, où on ne peut pas les étendre plus que ça. On est déjà sur des petits espaces qui coûtent cher et tout. Enfin, il y a vraiment... les loyers sont assez délirants, les loyers des commerces, même si il peut y avoir certaines aides. Enfin, il y a plein de possibilités, mais quand même, c'est quand même un vrai budget. Et juste la façon dont sont faits les bâtiments, voilà, quand le besoin se fait sentir d'un agrandissement, souvent, on est obligé de déporter le lieu à un autre endroit de la rue ou en face. Et du coup, ce qui est le plus logique, c'est de faire une librairie spécialisée jeunesse.
Ouais.
Voilà, donc c'est souvent comme ça que ça se crée. Du coup, la librairie jeunesse, elle est plus liée à la librairie générale qu'à une autre entité ou à ce groupement des librairies sorcières. Ce qui pourrait être le cas quand même, hein. Il y a quelques librairies généralistes qui font partie des librairies sorcières, mais très très peu quand même. Ouais. Du coup, moi je pense que ça vient de là.
Ouais. Et est-ce que, parce que je m'interroge de cette proportion de librairie jeunesse aussi, est-ce que tu penses, et donc indépendamment d'une librairie généraliste, est-ce que tu penses aussi qu'il y a une problématique de taille qui fait que quand même, c'est pas si évident que ça d'être viable? Enfin voilà, ouvrir simplement un espace jeunesse de taille conséquente, il faut avoir le budget, il faut pouvoir. Et en même temps, une taille petite rend l'équilibre économique de la librairie plus complexe.
C'est ça, je pense que c'est des équilibres qui peuvent être difficiles à trouver. Alors, nous, c'est une librairie très installée, donc on n'a pas trop ce problème-là. Ouais. Ça va, on n'est pas dans ces considérations-là par rapport à des librairies qui cherchent à ouvrir ou qui sont toutes jeunes. Mais effectivement, c'est des charges énormes. On parlait des loyers avant, mais toutes ces charges-là pèsent énormément sur une petite structure. Donc, effectivement, une librairie qui veut ouvrir, elle va se retrouver avec plutôt un petit espace. Et là, la question, est-ce qu'on fait que de la jeunesse? Est-ce qu'on fait une librairie généraliste, mais qui du coup peut réduire le choix en jeunesse? Est-ce qu'on fait jeunesse et jeu? Est-ce que... Il y a plein de possibilités. Et en soi, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir réfléchir à toutes ces possibilités. Mais effectivement, je ne sais pas si actuellement, c'est viable d'ouvrir une petite librairie jeunesse, juste jeunesse, en tout cas à Paris.
Ouais. Enfin, compte tenu de tout un tas de problématiques,
voilà, ça,
comme un loyer.
C'est ça.
Ouais. Il y a la problématique aussi, t'en parlais un peu tout à l'heure, mais fonds nouveauté, où tu peux pas forcément non plus te permettre les mêmes choses selon ton espace. Qu'est-ce que t'en dirais sur cet aspect-là? C'est pas quelqu'un qui voudrait ouvrir sa librairie jeunesse à Paris ou ailleurs?
Alors, moi, je pense que en jeunesse, le fonds est très important. En librairie, le fond est très important.
Mais tu parles de ton périmètre, voilà.
Mais en jeunesse, j'ai envie de dire particulièrement. Alors déjà, il y a ce côté classique de la jeunesse où il peut y avoir presque un côté nostalgique de certains adultes qui cherchent à offrir des livres qu'ils aimaient quand ils étaient enfants. Donc ça, on le retrouve vraiment, et vraiment beaucoup, et quand même particulièrement en jeunesse. Donc, il y a ce point-là quand même à prendre en considération. Moi, je vois, je suis trentenaire, et je suis libraire depuis plus de 10 ans. Il y a des livres, quand du coup j'étais jeune libraire, ils n'étaient pas encore trop revenus, mais qui maintenant font un boom total. C'est parce que les trentenaires ont des enfants maintenant.
Et ils les ont eu petits, donc ils veulent les offrir à leurs enfants.
Voilà, c'est un peu ça. Donc, on revoit, et du coup, on voit, c'est les livres de mon enfance, là, qui reviennent à la mode, entre guillemets. On en vend beaucoup plus maintenant de cette période-là. Après, je pense qu'il y a des choses, du coup, qui sont un peu cycliques, comme ça. Il y a des auteurs qui restent et tout. Et après, le fonds jeunesse est très, très riche. Il y a un fonds très important, très intéressant chez différents éditeurs. Il y a aussi un travail de réédition du fond par des éditeurs, notamment Memo.
Ouais, de fond ou même d'auteurs anciens qui avaient complètement disparu du panorama.
Des auteurs qui n'étaient
historiques.
C'est ça, des auteurs historiques. Et ça, moi, je trouve ça très important de le mettre en avant, pour le coup, notamment en librairie spécialisée. C'est pas forcément possible en librairie généraliste, question place. Mais en librairie spécialisée, moi, je trouve ça important d'apporter aussi un éclairage presque historique sur ce que c'est que la littérature jeunesse.
Ouais.
Et même, j'ai un petit coin avec tout ce qui est essai sur la littérature jeunesse, donc là, qui est plutôt à destination des adultes, hein, mais voire moi, des professionnels.
Mais on a sorti un très bien en fin d'année, d'ailleurs. Ouais.
Oui, très
intéressant.
Tout à fait.
Très
tout
intéressant. Et oui, bah, il est chez moi dans un autre endroit. Mais... Et du coup, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Tu, dans la ligne éditoriale de la librairie, tu cherches, je ne sais pas si tu as employé ce mot-là, mais en tout cas, à être exigeante, mais sans être élitiste. Mm. Est-ce que tu veux bien un peu développer cette idée?
Donc, je suis responsable de toute la partie jeunesse de la librairie. À la base, je suis plutôt portée par les albums. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même plus l'illustré. Après, je m'intéresse pas mal également aux romans et à la littérature jeunesse. De toute façon, c'est très riche. Ouais. Mais quand même, de
l'image.
Base, mon truc à moi, c'est l'image. Donc, c'est les albums. Et du coup, je m'occupe principalement des albums à la librairie. Hein. Et là, moi, ce que je cherche à montrer, c'est montrer la richesse de la production éditoriale, montrer différents styles d'illustration et montrer que des livres beaux peuvent fonctionner avec les enfants. Les livres sont pas trop beaux pour les enfants. C'est des choses qu'on entend parfois. Et non, voilà. Et les enfants, ils ont leur goût aussi. Et c'est très bien. Et c'est chouette qu'ils s'affirment. Mais pour ça, pour pouvoir affirmer leur goût, il faut qu'ils puissent voir différentes choses. Donc, voilà. Du coup, pour moi, c'est important de montrer cette diversité-là et de montrer des choses qui sont peut-être de la petite édition, des choses qui peuvent être assez pointues et qu'on ne va pas trouver partout. Mmh. Et que notamment, les gens ne vont pas trouver en pile partout ou sur Internet ou quoi. Ce n'est pas les premières choses sur lesquelles on tombe quand on cherche des albums jeunesse. Donc, pour moi, c'est important de montrer ça et de montrer que ça marche, qu'on peut faire du chiffre avec, qu'on peut les vendre, que ça fonctionne avec les enfants. C'est pour ça que je fais aussi des lectures avec les petits, parce que c'est pour montrer que des tels livres qui peuvent sembler pointus aux adultes, en fait, ça fonctionne très, très bien avec des enfants. Et, mais c'est par tout ce biais-là de médiation, d'explication et du fait de montrer et tout, qu'on arrive à ce côté-là de montrer des choses différentes tout en n'étant pas sur une posture élitiste. Moi, je ne veux pas du tout juger. Et bah, si on me demande quelque chose que moi, j'estime pas très bien et tout, c'est pas grave. C'est comme ça. Enfin, moi, je le vends quand même et il n'y a aucun problème. Par contre, ça n'empêche pas de pouvoir montrer autre chose à côté.
Ouais, ouais. Voilà. C'est d'essayer d'ouvrir au maximum.
Voilà. C'est ça, sans juger surtout.
Ouais, ouais, ok. De manière générale, ça m'intéresse d'avoir ton regard, et tu peux revenir aussi là-dessus sur tes anciennes expériences, tu as parlé de l'humeur vagabonde, sur ton ressenti par rapport au nombre d'ouvertures de librairies ces dernières années, de librairies jeunesse, mais plus globalement, qu'est-ce que ça t'inspire?
J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'ouvertures de librairies un peu après le Covid, ou pendant le Covid, parce que ça dépend comment on prend la période entre le confinement et puis l'après-Covid qui a duré beaucoup, qui a été une période assez difficile, enfin difficile et intéressante. Enfin, c'était une période, du coup, moi je travaillais à l'humeur vagabonde, il y a eu une sorte de gros boom autour des librairies indépendantes, ce qui est super chouette, vraiment, c'est très très bien. Simplement, du coup, ça a fait une période très difficile à gérer, où quand on était, moi, à l'époque, dans une petite structure, d'un coup, quand on se prend un gros chiffre d'affaires en plus et une grosse clientèle en plus, c'est énorme, en fait. C'est très compliqué à faire. Mais en fait, c'est quelque chose, on ne veut surtout pas s'en plaindre. Donc, c'est très bien. Après, il y a eu quand même une baisse depuis. Hein,
Ça s'est un peu tassé.
Ce qui est normal, au bout d'un moment, on peut pas non plus, ça peut pas exploser.
Bien sûr.
Ça peut pas être de façon exponentielle.
Sur des années.
Voilà, c'est pas possible. Mais bon. Mais du coup, il y a eu, en parallèle de ça, j'ai l'impression, hein, et pas que sur le secteur, mais pas mal de gens qui, pendant le premier confinement et après, ont remis en question leur travail, leur mode de vie et tout. Enfin, moi, en tout cas, en librairie, on ne m'a jamais autant demandé comment être libraire, comment se reconvertir. Et tout que depuis le Covid.
Et justement, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut ouvrir sa librairie jeunesse ou devenir libraire jeunesse? Parce que la question, c'est pas forcément d'ouvrir son espace, mais...
Alors, pour le coup, moi, je pense que s'il y a moyen, ce qui peut être bien avant toute chose, c'est de faire un petit stage, même une semaine, juste pour voir comment ça se passe. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se font une idée un peu fausse de ce qu'est le métier, qui ne voient pas tout l'aspect physique, l'aspect manutention. Après, il y a forcément un aspect, surtout quand on ouvre sa propre structure ou qu'on en est responsable d'une structure, un aspect comptable, un aspect... voilà, ça, c'est des choses qui sont vite oubliées par des gens très motivés juste par une passion du livre. C'est très bien d'avoir la passion du livre, mais honnêtement, ça ne suffit pas.
Et, il y a un travail de gestion derrière,
c'est ça,
la manutention.
C'est ça. Et il faut s'en rendre compte.
Et ça, tu le conseillerais aussi à des personnes, parce que je pense que c'est des reconversions assez fréquentes, des personnes qui ont été éditeurs, éditrices, qui viennent du monde du livre, mais qui ne sont pas forcément...
Alors, bon, les gens qui viennent du monde du livre, déjà, je pense que j'espère qu'ils ont un peu plus une vision un peu plus précise quand même. Mais tout de même, je pense quand même qu'un petit stage en librairie,
juste
avant,
pour voir voilà. Aussi ce qui plaît, ce qui plaît pas. Ne serait-ce que aussi, je pense, enfin, la dimension. Si l'idée, si le projet, c'est d'ouvrir une librairie, ne serait-ce que pour se faire une idée aussi de tout ce que ça représente plus concrètement.
Parce c'est que, ça. Ouais. De voir ce que c'est qu'une journée en librairie, parce que je pense que vraiment, j'ai l'impression, hein, moi, dans tous ces gens qui sont venus me voir, que beaucoup fantasmaient un peu le métier, qui est un super métier, que moi, j'aime beaucoup et que je suis ravie de faire, mais qui a aussi ses contraintes, et notamment ses contraintes physiques, qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, voilà, pour moi, j'aurais tendance à dire du calme, avant de partir sur une formation, sur de lâcher son boulot ou quoi, on se calme. Et si c'est possible de passer une semaine en librairie, rien que pour voir comment ça se passe et pouvoir un peu être un peu plus sûr de son choix. Déjà, ça, moi, je pense que c'est bien.
Et par rapport à la ligne éditoriale dont tu parlais, ce serait quoi la première question pour toi à se poser pour quelqu'un qui... voilà, qui cherche à ouvrir son espace.
Alors, je pense qu'il peut être intéressant, déjà, d'aller voir différentes librairies. Ouais. Je pense que c'est bien juste pour se rendre compte de ce qui se fait, de ce qui peut se faire, du coup, de façon différente et aussi sur des structures différentes. Genre, je pense que ça peut être intéressant de voir une grosse librairie spécialisée comme 1000 pages, également une toute petite librairie. Voilà, je pense que c'est pour moi la première démarche à faire. Parce que ça permet aussi de se rendre compte de la production éditoriale, de ce qui peut fonctionner, etc. Donc ça, je pense que c'est très important. Et toujours ce truc en jeunesse où il y a vite une question autour de la nostalgie, il ne faut pas rester uniquement là-dessus.
C'est important de l'avoir.
C'est bien.
Mais il faut quand même aussi, surtout sur un petit espace où j'imagine que...
C'est ça.
Il y a quand même une idée de la nouveauté est d'autant plus importante, mais avec toujours cet équilibre un peu complexe à trouver.
On ne peut pas arriver et dire « Moi, je veux mettre ça parce que c'est ce que je lisais à mes enfants. » Ça ne suffit pas. C'est vraiment, il faut se renseigner. En plus, c'est tellement riche et intéressant que ce serait dommage de s'arrêter à ça en se disant « Ah, il y a 10 ans, c'était trop bien ça ». C'est peut-être encore très bien, hein, mais pas que.
Ah, il y a une telle richesse de production en France, hein, c'est impressionnant. Et pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce que tu peux partager avec les auditeurs, les auditrices, un ouvrage particulièrement marquant pour toi ?
Alors, du coup, j'ai un petit peu réfléchi. Au début, je me suis dit « Ah, le livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite ». Puis après, je me suis dit « Ben non, je vais repartir dans cette histoire de nostalgie ». Et en plus, moi, j'ai grandi en Alsace, donc j'ai grandi avec Tommy Ungerer.
J'y vais la semaine prochaine.
J'adore Tommy Ungerer, mais en même temps, il est très connu. C'est pas ce que j'ai envie de faire découvrir aux auditeurs. Ouais. Aux auditeurs et auditrices, et si en plus... j'en ai déjà parlé, ici ou là, donc ça peut se retrouver. Mais du coup...
Tu partages le podcast dans lequel tu interviens ?
Du coup, je fais des chroniques toutes les 2 semaines dans l'émission « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ». Donc à chaque fois, je chronique un livre jeunesse. La plupart du temps, c'est des albums. Il m'est arrivé de parler de romans, parfois BD jeunesse.
Mais on reconnaît ton goût pour l'album.
Plutôt album.
Ok. Ouais.
Par contre, c'est plutôt des nouveautés, de façon assez relative, quoi.
D'accord.
Donc, je parle moins de fond.
D'accord. Moi, c'était juste
mais, voilà,
petite parenthèse.
Petite aparté. Et donc, du coup, je me suis dit, ah bon, on va rester sur cette idée un peu plus de ligne de ce que je souhaite mettre en avant. Et donc, je voulais parler d'une collection, mais on peut parler principalement du dernier livre, du coup. C'est la collection des Philonimo, qui est éditée aux éditions Trois Oeils. C'est une petite collection de philosophie pour enfants qui part sur des paraboles animalières. Donc, c'est des textes très simples qui sont vraiment abordables dès 3 ans. Mais le dernier paru, c'est L'abeille de Saint-Simon. Toute la collection est écrite par Alice Brière-Aquet. Et après, c'est illustré par différents illustrateurs, souvent sur des techniques traditionnelles d'illustration, de gravure, etc. D'accord. Mais sur différentes techniques. Et là, c'est illustré par Maëlie Bernard.
D'accord. Ils sont magnifiques. En plus, voilà.
C'est des très jolis livres qui sont du coup très abordables et que l'on peut utiliser juste comme des petites histoires très chouettes avec ces petits animaux à chaque fois.
Et très contrastés voilà. aussi dans les
voilà,
couleurs.
Voilà, c'est ça. À chaque fois, il y a une couleur forte. Mais on peut aussi les approfondir. Je pense qu'ils peuvent être très facilement utilisés dans des ateliers philo, dans des choses comme ça, pour approfondir le texte avec des enfants un peu plus grands. Du coup, je les trouve...
ils ont une durée de vie assez longue à la maison, quoi.
C'est ça, à la maison. Et puis, voilà, moi, en librairie, j'aime beaucoup les conseiller, les mettre en avant. Je trouve que ça correspond bien à l'idée que je me fais de la ligne que j'ai envie de mettre en avant. Parce que je les trouve très, très bien conçus sur un côté accessible et tout en étant très, très beau et très bien fait.
Ouais,
et
façonnage.
Voilà. Donc, okay. Trois œils, c'est une toute petite maison d'édition qui fait des livres particulièrement intéressants et beaux. Et donc, voilà.
Ok, je la connaissais pas. Tu vois, je découvre. Donc, merci beaucoup. Merci, Elsa, pour ce temps partagé.
Merci à toi.
Merci.
Merci à toi.
Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le Son de l'Encre. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt.